Si dans la journée les lavoirs étaient réservés aux corvées domestiques et animés par les bavardages des femmes, la nuit tombée, désertés par leurs occupantes, ils devenaient des endroits mystérieux, abritant bien des superstitions. De nombreuses légendes évoquaient des laveuses maudites, condamnées à laver éternellement le linge des personnes décédées. Le lavoir du Batay avait sa propre légende, souvent contée lors des veillées d'autrefois. Arrêtons-nous donc quelques instants pour partager cette étrange et terrible histoire contée lors d'une veillée au coin du feu dans la maison de François Mauffu, il y a quelques années.
François, toi qui sais si bien parler, raconte-nous l'histoire du lavoir du Batay. La Jeanne ne l'a jamais entendue. Et elle voudrait bien savoir pourquoi sa grand-mère lui a interdit de passer par là à la nuit tombée.
Oui, racontez-moi, François.
Ah, pour sûr, aucune femme n'aimerait passer à côté du lavoir du Batay la nuit. Et surtout pas la nuit de la Saint-Jean. À cause de la barbée.
Une saleté, celle-là. Qui méritait bien ce qui lui est arrivé.
N'en dis pas trop. Allez, François, raconte.
Et écoutez, les amis. L'histoire d'une femme maudite. La nanou barbée, c'était une langue de vipère qui aurait fait se battre des montagnes avec ses commérages. De Châtelut au Pradou, on la connaissait et on s'en méfiait. Sauf quelques bonnes âmes qui espéraient la changer en lui faisant des gentillesses. Mais c'était mal la connaître, hein. Personne n'avait grâce à ses yeux et n'échappait à ses vilaines médisances. La barbée gagnait sa vie comme laveuse pour les gens riches. Une dure besogne pour une femme bien âgée déjà.
Eh bien, dame, moi aussi, j'y ai laissé mes meilleures années au lavoir.
Oh, chut!
Mais la barbée était une forte femme, dure au mal, et sa langue, pas plus qu'elle, ne connaissait le repos. Car rien, ni personne n'aurait pu l'empêcher de jacasser. Aussi, les jours de lessive, elle aimait répandre ses calomnies sur les absentes, et bien trop nombreuses étaient celles qui l'écoutaient. Depuis quelque temps, la nanou barbée en avait après les carriers, une famille du coin pour qui elle travaillait. À la dernière bujade, la Marguerite Carrier avait fait grand reproche à la nanou sur son travail, en remarquant des tâches oubliées. Aussi, un beau jour de mai, tout en rinçant son linge, nanou mit à profit la présence de nombreuses voisines attirées par le beau temps pour répandre son venin sur les carriers. L'occasion lui était enfin donnée, avec les fiançailles de Marie, la plus jeune des filles Carrier, avec Jean Châtonnet, le fils du chapelier. La Marie était justement présente ce jour-là, tout à ses rêves de bonheur. La nanou fut habile, comme à son habitude. Faisant mine de ne pas avoir vu la jeunette, elle commença devant les commères, avide de ragots, à jacasser comme une pie sur le Jean Châtonnet et ses nombreuses conquêtes. Elle répétait à l'envi les noms des filles qui l'avaient séduite, et révéla qu'il venait d'avoir un fils de la Jeanne de la Borde, celle dont tous savaient qu'elle avait accouché d'un bâtard, dont elle taisait le nom du père. La petite Marie en était pétrifiée. Elle l'aimait tant, son Jean, avec ses yeux bleus comme un ciel sans nuages et son sourire si doux. Mais son père n'accepterait jamais, pour gendre, un coq de village semant des enfants dans tous les hameaux des environs. Et si Jean se mettait à l'aimer, ce fils, au point de vouloir épouser sa mère pour le garder? Le cœur brisé, plantant là ses affaires, Marie s'enfuit chez elle, aveuglée par les larmes. Ce n'était pourtant que mensonge. Jean était sage depuis qu'il fréquentait la Marie. Quant à l'enfant, il a été le fils d'un colporteur de passage, qui avait abusé de la pauvre petite Jeanne. La barbée le savait bien, mais l'occasion était trop belle de blesser Marie et à travers elle, toute sa famille. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était le trop grand amour que la petite portait à Jean. La nuit venue, épuisée de chagrin, Marie choisit de mourir plutôt que de perdre son amour. Au matin, inquiète pour sa fille qui ne se levait pas, Marguerite Carrier entra dans la chambre de la petite et s'évanouit d'horreur en découvrant deux petits pieds nus se balançant dans le vide. Dans la nuit, et sans faire de bruit, revêtue de la belle robe neuve réservée à ses noces, Marie s'était pendue dans sa chambre, à l'aide de ses draps noués encore de grossiers.
Sainte mère, prenez pitié. Oh, mais c'est horrible.
Tout le village fut atterré par la triste nouvelle. Une si gentille petite, qui serait enterrée hors du cimetière, puisqu'elle s'était donné la mort de ses propres mains. Le Jean Châtonnet, fou de douleur, quitta le pays pour ne plus jamais y revenir. Et la barbée, elle n'avait pas le moindre remords. Mais les autres commères, qui se sentaient un peu coupables de l'avoir écoutée, commencèrent à l'éviter. Surtout au lavoir, où elle n'allait plus jamais en même temps qu'elle. C'est ainsi qu'en ce premier jour d'été, la nanou barbée se retrouva toute seule à frotter son linge. Elle finissait son ouvrage lorsqu'elle crut qu'un nuage épais passait devant le soleil. Le lavoir, baigné de lumière quelques minutes plus tôt, se trouvait désormais plongé dans une ombre si dense que l'on se croyait au milieu de la nuit. Nanou, saisie d'angoisse, ramassa fébrilement son battoir et son linge pour s'enfuir de là, lorsqu'elle entendit une voix claire et forte s'élever.
« Écoute bien, petit John. C'est le moment le plus intéressant. »
Et cette voix lui a dit, et ce sont ses paroles, mot pour mot.
« Ne crois pas échapper au sort qui t'est réservé, Nanou Barbée. Tu seras seule à entendre mes paroles, car elles te sont réservées. Je suis l'âme de la source qui s'écoule dans ce lavoir où tu as si souvent plongé tes mains. Et je sais ce que tu as fait. Tes mensonges ont conduit à la mort d'une enfant innocente, la privant du bonheur qu'elle devait connaître. J'ai assez de pouvoir pour venger celle que tu as détruite. Ta punition sera à la hauteur de ton crime. Tu vas mourir. Mais ton âme ne rejoindra pas le paradis auquel tu crois. Elle restera prisonnière de ce lavoir tant que tu n'auras pas accompli la tâche à laquelle je te destine. Chaque année, la nuit du solstice d'été, la plus courte de toutes, tu devras laver, comme autant de draps, tous les mensonges qui auront été racontés durant l'année écoulée par les hommes et les femmes de ton espèce. Il te faudra faire ceci à la seule force de tes bras, jusqu'à ce que le dernier mensonge se soit entièrement dissous dans l'eau de ce lavoir. Si tu réussis à venir au bout de ton ouvrage avant la première lueur de l'aube, alors tu seras libre de rejoindre les âmes repenties. Sinon, jusqu'à la fin des temps, tu ne connaîtras ni pardon, ni repos.
Nanou Barbée sentit alors son cœur se serrer tant qu'il lui semblait exploser. Son cœur était déjà mort quand il tomba dans le lavoir, où son âme s'enfonça dans les profondeurs de l'eau devenue sa prison. Et c'est ainsi que la barbée devint la laveuse de mensonges, une de ces ombres maléfiques qui hantent nos nuits sans lune, condamnée à une bujade éternelle au lavoir du bâté. Car jamais elle ne travaillera assez vite pour venir à bout de sa bujade, hein, et vider entièrement sa brouette de menteries de l'année, dont la pile s'élève toujours jusqu'aux étoiles du ciel. Et dans la nuit, on peut l'entendre se plaindre et gémir. « Besogne, besogne, qui m'aidera à faire ma besogne ?» Sans que jamais personne n'ose se faire connaître, de peur de devoir prendre sa place.
Voilà la Jeanne. Pourquoi tu ne devras jamais te trouver près du lavoir à la nuit tombée ? Moi, j'aimerais mieux marcher toute la nuit que de raccourcir ma route en passant par là.